anglo-saxons à nos côtés. Est-ce qu'il faut encore que je vous les présente? Allez, oui, je présente quand même. Catherine Valente, qui est prix imaginal l'an passé, prix imaginal de la catégorie roman jeunesse, et on parlera de son univers qui s'appelle Féerie. On verra que c'est un univers qui est à la fois dédié à l'enfance, mais également vers l'âge adulte, parce qu'on peut aussi bien le lire en étant un enfant, un jeune lecteur, bien qu'un lecteur un peu plus chevronné. Et puis, de l'autre côté, Christopher Priest, faut-il le présenter, Christopher, l'une des grandes plumes de la science-fiction contemporaine, qui nous fait l'amitié de venir maintenant chacun de nos imaginaires et qu'on remercie pour cela. C'est intéressant d'ailleurs qu'il soit là sur cette table ronde parce que le sujet colle parfaitement avec son actualité puisque son dernier roman se déroule dans un univers qui s'appelle l'archipel des rêves. Et l'archipel des rêves, justement, c'est un univers que Chris développe depuis longtemps maintenant. Et ça, il nous en parlera, ça sera quand même beaucoup plus simple. Je vais commencer avec Catherine Valette. Parlez-nous un petit peu de Féerie puisque on va s'intéresser à la fois aux créateurs et alors aux univers qu'il crée. Qu'est-ce que Féerie?
It is Fairyland. It is the great other world. One of the sort of advantages of using a generic term like Fairyland is that any folklore from any culture I can explore within the context of this world. It is meant to be as big as our world, and it has an underworld and a heavenly world as well. So in that sense, it's somewhat like Oz or Narnia. But as I've spoken of in other panels, part of the purpose of Fairyland is to sort of examine things like Oz and Narnia and to poke fun at them a little bit and deconstruct them.
Thank you. Oui, donc l'univers de Féerie, oui, donc c'est un monde que j'ai créé, oui, tout à fait. Mais c'est juste ce que c'est le monde de Féerie. Et l'avantage, justement, quand on utilise un terme assez générique comme celui-ci, c'est qu'on peut justement y mettre beaucoup de choses et puis qu'on fait effectivement référence à toute la tradition folklorique. Donc ce monde, il est aussi vaste que le nôtre ici. Il est aussi, il a aussi un au-delà qui se trouve en dessous de Féerie et puis aussi un monde céleste qui se trouve au-dessus. Et c'est un monde qui a des similitudes avec Oz ou Narnia, par exemple. Et comme j'ai pu le dire lors d'autres tableaux rondes, eh bien, un des objectifs en créant ce monde, c'était justement un petit peu de, comment dire, faire un pied de nez à ces mondes plus classiques que sont Narnia ou Oz. Et je voulais déconstruire ces mondes-là.
One of the sort of key aspects of all of the creatures that live in Fairyland, though they come from mythology and folklore from around the world, from Japan to gnomes and hobgoblins and puka from Europe, they all think of themselves as very modern and scientific, and are always trying to prove to September, the protagonist, that they're just as up on the latest scientific journals as her world is, even though they're absolutely not. So it's a world that sort of, much like ours was a little while ago, is trying to push itself into modernism, the catch being that magic is absolutely real. There's a character named Belinda Cabbage, who is sort of Fairyland's version of Charles Babbage, and she creates all kinds of inventions. And it's a world that very much reflects, it's a shadow world of our own, very much reflects the assumptions of our world and examines them.
L'idée principale pour comprendre les créatures qui peuplent le monde de Féerie, eh bien, c'est qu'elles sont, comment dire, je me suis inspirée des mythologies des quatre coins du globe. Je me suis inspirée de la mythologie japonaise, j'ai puisé aussi dans les figures des gnomes, des pukas ou des goblins, qui sont donc plutôt des figures européennes. Donc on trouve tout un éventail de créatures comme celle-ci, mais ce qui est rigolo, c'est qu'elles se prennent toutes pour des créatures Le Chauffeur en français, c'est une sorte de référence à Charles Babbage, donc qui est un des inventeurs de l'ordinateur,
le premier prototype d'ordinateur au 19e siècle.
Au 19e siècle. Merci Christophe. Et donc voilà, elle représente.
C'est très bien, qui complète une partie de la non plus.
Dommage. Et donc voilà, elle aussi, c'est une grande inventrice qui essaye de propulser le monde vers la technologie. Et c'est une façon pour moi justement de, comment dire, de mettre en avant et d'interroger voilà, toutes les croyances que l'on peut avoir ici et maintenant.
Christophe Priest, votre dernier roman s'appelle L'inclinaison. Social media will be banned from our world. They also have ships and airplanes, and it's not very interesting at all in technology. But each island represents a kind of symbol of what I want to write about at that time, and the gradual or like an inclinaison. Central character of the novel is a composer who travels between the islands, and as he moves around, he starts learning about his own music by responding to the musical emanations from each island, and gradually a kind of symphony is developed as he goes around, and he learns a lot about his music and other people's music from it. In previous Dream of Medical stories, none of this happened. It might never happen again because it was for that book. It changes as well, but when I first started writing, I had them in had the islands as a sort of general tropical ambience. There were also more bathing costumes to sit around on beaches and were kind of drinking iced tea and things. And now it's become very Nordic. They all wear fur boots and sort of very happy. Deal with glaciers and avalanches, so it's very unreliable. But to me, it's a kind of really is a blank tapestry on which I can draw. voyage, apprend des choses sur sa propre musique, il la répond, il réagit aux émanations musicales de chaque île et dans un sens, tout cela compose une symphonie. Il apprend des choses sur sa propre musique, en mesure qu'il apprend également des choses sur la musique des autres. Et en fait, dans cette histoire, ce qui arrive dans l'archipel du rêve, tout ça, ça n'est arrivé dans aucun autre livre. Et il est probable que ça n'arrive dans aucun autre des autres livres, si jamais là où l'archipel apparaîtra, puisqu'il s'agissait du propos de ce livre-là. Et dans l'écriture aussi, ça a changé, en fait, d'ailleurs. Parce que quand j'ai commencé à faire cette histoire, l'archipel était décrit comme des îles assez tropicales. Tout le monde était en maillot de bain sur des plages, à boire du thé glacé. Et puis ça a même dérivé vers une ambiance beaucoup plus nordique, où ils ont des bottes de fourrure, où il faut faire attention à des avalanches, où le paysage peut être un peu traître. Bref, en commençant, l'archipel du reste, c'est un peu comme une grande tapisserie vierge sur laquelle je prends plaisir à dessiner.
C'est l'année dernière, précisons-le, ça tombe bien, parce que c'est de ce livre-là dont on va parler en grande partie. Le septième guerrier mage, quel est un peu l'univers dans lequel se déroule ce roman, justement, et comment l'avez-vous conçu? Moi, j'aime tellement la création d'univers que j'en crée un nouveau à chaque roman. C'est une capro, le septième guerrier mage. C'est un roman, un roman tout seul, one shot. Et donc, on ne peut pas avoir une vision complète de l'univers en un seul roman. Et je n'en entendrai qu'un petit morceau dans ce livre. Une vallée perdue, une vallée assez grande, hein, mais avec un village, on ne sortira pas de cette vallée durant quasiment tout le roman. Sauf pour les souvenirs de Verre qui se souvient dans le livre de ce qu'il a vécu avant. Et donc, cet univers ne. Moi, je fais partie des auteurs qui créent un univers et qui vont inventer une histoire qui va se passer dans cet univers. J'invente plutôt un personnage avec son histoire, ses problèmes et ses thématiques. Et je vais créer l'univers en même temps que je crée l'histoire de ce personnage. C'est ce qui est exactement ce qui est arrivé avec le septième guerrier mage. J'aime tellement la création d'univers que quand j'étais petit, en fait, j'aimais déjà d'être auteur de fantasy. J'écrivais des cartes partout. Au restaurant, j'ai dessiné des cartes sur les nappes. J'en dessinais même sur les devoirs de mathématiques. Alors qu'on vient de vous dire qu'il ne faut pas faire plus tard. Non, mais on n'est pas tout à fait comme si tu quand même. Quand j'étais petit, j'étais complètement fan de Tolkien avec ses cartes. Et il n'y avait pas encore de grossir les cartes sur les écrans d'ordinateur. Donc j'ai prenais l'eau et j'ai regardé tous les petits détails, les cités, les petites forêts, les montagnes, etc. Et j'étais fou de cartes. Hein. Bon, il n'y a pas une seule dans mes romans maintenant, vous avez remarqué. Non, mais la topographie des lieux est super importante par contre dans le système de l'image. Oui, exactement. Il a sur une évidence, il regarde la vallée et on lui décrit toute la partie de la vallée. De façon à ce qu'on puisse comprendre l'univers avec lequel on va être confronté, qui n'est pas très grand. Et puis la rivière de la porte de l'entrée encaissée de la vallée, le village plus loin, le glacier au-dessus. Juste pour avoir ce côté à la fois très détaillé, mais en même temps détaillé. Dans tous les sens du terme, finalement, faire détailler dans l'univers tel qu'on le voit, c'est finalement prendre un détail presque d'un univers qui serait plus large, mais vous laissez totalement de côté. C'est justement ce choix, c'est assez particulier, non, c'est habituel en fantasy. J'ai pas le but en écrivant un roman d'être habituel en fantasy, je suis dans la vie qui m'intéresse. Il se trouve que, oui, effectivement, c'est pas très habituel. Bon, c'est un roman de siège, c'est bon, on en trouve. Enfin, parfois, une ville assiégée et l'assistant qui sera un village. Mais je trouve ça intéressant. Moi, je n'aime pas les vitraux dans une maison, dans une pièce, ça me presse beaucoup. Mais dans une vallée, c'est suffisamment grand pour moi, pour que je me sente à l'aise. Et je peux me promener sur la rivière, dans les pâturages, dans les montagnes, tout en restant assez restreint pour faire une histoire qui se tenir en un seul tome. Je me souviens, mon éditeur, la moitié du roman, m'a dit elle me plaît beaucoup cette histoire, tu pourras en faire 3 tomes. J'ai dit d'accord, mais je pourrais essayer dans la vallée. Il m'a dit non, si tu fais 3 tomes, tu sais que je vais partir de la vallée, il me dit que de toute façon, j'ai manqué, je fais un seul tome. Et ça sera vraiment tout seul. Qu'elle était verte, la vallée, donc pas bien. Mesdames Marfil, avec vous, on va partir, alors, au moins pour le point de départ, dans un univers qui est un univers voilà, concret que l'on va pouvoir facilement visualiser, conformément à ce que viennent de nous expliquer vos petits camarades, puisque c'est Madagascar. Au départ, et puis petit à petit, on va voir que ça va changer.
c'est de savoir pourquoi elle est dans cet état aujourd'hui. Et donc, je suppose qu'il y a eu un point de départ à cela. Et la recherche donc, de ce point de départ va les conduire, sans toujours en restant sur la planète Terre, mais dans des dimensions cachées de notre planète. Des dimensions, j'aime pas trop dire spatio-temporelles, parce que c'est pas de la science-fiction. On reste à la fois dans un univers qui est toujours fantastique, mais qui a des sources, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'aime, je parle d'une ancienne tradition qui présupposait que aujourd'hui l'espèce humaine correspondrait à la cinquième ère depuis la création de notre monde. Donc là, on est dans des univers de créateurs de monde. Des hiérarchies célestes ont présidé à ça. Donc il y aurait eu bien avant donc une civilisation qui est citée, qui s'appelait les Poraires. Non pas parce qu'il ne faut pas le prendre au sens d'un pays, une région où il ferait froid, mais parce que leur rôle était d'abord de créer des pôles magnétiques sur la planète pour drainer les matériaux, dans le sens où la planète s'est créée en partie comme si la science était exacte, d'une boucle en fusion. Donc il fallait d'abord refroidir cette planète. Donc là, il y a eu des créateurs qui sont apparus la première fois pour, en quelque sorte, fabriquer la croûte terrestre. Et après, il y a eu la rencontre de la glace et du feu, ça a donné les civilisations hyperboréennes. Les hyperboréens, on retrouve ça dans beaucoup de traditions. Et la troisième ère qui a suivi, c'est celle que j'exploite, moi, c'est celle des lémures. Les lémures ont passé un moment le relais de cette planète sur laquelle ils ont développé une prémisse de l'humanité. Le relais a été passé à une civilisation qu'on connaît, dont on a encore un peu plus entendu parler, qui était les Atlantes. Et effectivement, il semblerait que ce soit à partir de cette civilisation que les choses ont commencé sérieusement à se dégrader. Et donc, la mission va être d'aller au point de rencontre, essayer d'empêcher le premier geste qui a fait basculer l'humanité dans une espèce de terreur et, qui a mis la planète finalement dans cet état.
Et on va partir en quelques minutes à la découverte un petit peu justement de, cet univers, je parle au sens littéral du terme, qui est le vôtre dans ce voyage-là. Catherine Valente, Frééri, c'est une succession de rencontres aussi, pas seulement, ou à la limite, les lieux sont presque moins importants que les personnages dans ce que vous faites.
Present a compelling enough story, the capital will come to you. And there are a lot of things like that where the place is very metafictional in that sense. The whole book is sort of postmodern in that way. One of the biggest characters is the narrator, who is always breaking the fourth wall and speaking directly to the audience. I never had a map, just as Chris dictates. I still don't. I still have never had a map of Fairyland. I create the places as I need them. So I certainly have an idea of what the world looks like. But as I need a new city, as I need a new province, I will create them as I go.
Dans une certaine mesure, oui, on peut dire que c'est vrai, oui, les personnages sont peut-être un peu plus importants dans ce que j'écris, mais en même temps, les lieux ont aussi beaucoup de caractère et de profondeur. Par exemple, la capitale de Fééri, qui s'appelle donc Pandémonium, occupe une part très 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 importante du récit. Et l'idée en créant cette ville, c'était de faire une ville qui soit itinérante, ambulante, et qui s'adapte, qui n'est jamais à un endroit fixe, mais qui s'adapte en fait aux besoins des personnages, des habitants. Et en fait, il faut la mériter, cette ville, pour pouvoir s'y rendre. Il faut trouver une histoire qui soit assez intéressante pour séduire justement la capitale.
cities and villages that just completely overwhelm her. The autumn provinces, where it's always autumn and every night is Halloween. They are, by the end of the book, trying to get to the lonely jail, the jail at the bottom of the world. And then the island of the Nasnas, which are people who are cut in half and have to combine to make the various citizens of their country. It is very important to me to not just have flashy characters, but to have places that feel real, places that feel lived in.
J'ajouterais aussi que les symptômes de la série féerie pourraient, oui, en un sens, être vus comme des guides de voyage.
Moi, je voulais dire qu'il y en a deux pour le moment qui sont traduits. Hein.
Oui, c'est ça.
Il y en a deux. Il y a cinq heures au total dans la série, deux pour le moment sont traduits. Mm-hmm.
Et en ce sens, donc, les endroits, les lieux ont une importance cruciale dans la série. Dans le premier tome, par exemple, Septembre, la protagoniste, passe son temps à passer d'un village ou d'une ville à l'autre, et elle est complètement subjuguée par ce qu'elle découvre. Elle se retrouve par exemple dans la province de l'automne, où c'est Halloween tous les jours. À un moment, avec ses amis, ils essayent de trouver la province, la prison, qui se trouve tout au bout des terres. Elle se trouve aussi à un moment donné dans la province des Nasnas, donc ce sont ces habitants qui sont tous coupés en deux et qui passent leur temps à essayer de retrouver leur moitié pour essayer de retrouver leur intégralité. Donc oui, j'attache beaucoup d'importance à essayer de... Je ne veux pas seulement avoir des personnages flamboyants qui crèvent l'écran, et puis j'ai aussi besoin de placer ces personnages dans des endroits qui aient l'air vrai, qui vraiment qui sentent le vécu.
Il y a un élément dans l'archipel du rêve. Alors, je crois que vous avez participé à une table ronde sur le sujet, pour le courant de ces imaginales, mais on va en redire quand même un petit mot. C'est le temps. C'est que chaque île de cet archipel vit à son propre rythme. Est-ce que ce que je dis est juste ou est-ce que je n'ai strictement rien compris? Which book you're talking about. I want to say something about maps in books. It's something that's really important. I feel like the most people who campaign against smoking, people enjoyed smoking, and we said, come on, life would be better without cigarettes. And more people have given up, and they found this is true. And I want to say to my fellow writers, give up your maps, get rid of your cartographers. Free yourself of the reins of literalism and try without maps. You wouldn't put photographs of your characters in a novel to help people imagine them. You wouldn't put anything like that in a book. You would do it with the words, and that's what I think a writer writing about the territory should do. Throw away the shackles of literalism. Because the thing about maps in a book is, first of all, it is widely believed, and probably correctly, that readers like them for the fantasy, where they're up to. On the other hand, that stops them reading. Why should they stop and look at a bloody picture? They're reading a book. why help readers? Make them work for it. And if you make a reader work, they appreciate the book more, because they'll get more out of it. I know you're laughing, but I'm actually serious about this. And the other thing is that if any kind of illustration of fiction makes a definition of something which is imaginary, and I believe the magic of a book is that the words that you read are a kind of code, they're a kind of secret code, they're something that you read and respond to, and then you make the world in your mind, and everyone therefore creates a different world for every reader. It's special. My proof of this is that after you've read a book, you can't actually remember the words. If I said to anyone, just read a novel, okay, what was the 14th word on the 7th line of page 240? You couldn't So this is the message I made, which is have the guts to give up smoking, give up maps.
Alors, ça dépend du niveau dont on parle concernant l'archipel du rêve. Avant de reparler de ça, il y a un truc que je voudrais revenir sur la notion de Descartes dans les livres, avec quelque chose qui pour moi est important. Je me sens un peu comme un type qui fait campagne contre la cigarette. Il y a un certain temps, les gens aimaient fumer et on leur a dit abandonnez la cigarette, votre vie sera meilleure. De la même façon, j'ai envie de vous dire abandonnez Descartes, amis écrivains. Envoyez-vous de cartographe au chômage. Libérez-vous des contraintes du réalisme. Essayez d'écrire sans les cartes. Quand vous écrivez un roman, vous ne maîtrisez pas une photo avec votre personnage, vous faites tout avec les mots. Donc, à mon avis, c'est un écrivain qui parle de territoire devrait faire qu'il abandonne les chaînes du littéralisme. Deux choses sur les cartes. La première, c'est qu'on en met dans les bouquins parce qu'on pense que les lecteurs les aiment. C'est probablement vrai. Mais ça les empêche, ça les arrête dans leur lecture. Pourquoi est-ce que le lecteur qui est en train de lire devrait à un moment tourner les pages pour revenir regarder ou ficher l'image et est en train de lire un livre? Pourquoi on devrait l'aider? Il vaut mieux faire travailler le lecteur avec les mots. Et je pense qu'un lecteur qui travaille apprécie mieux le livre. Mes camarades rient, mais je suis en fait très sérieux. La deuxième chose, c'est que toutes sortes d'illustrations donnent une définition à ce qui est imaginaire. Et je pense que toute la magie de la littérature réside dans les mots, c'est comme un code secret, et on les lit et on y réagit. C'est à travers ces mots que l'illusion de la littérature se fait. Chaque lecteur crée un monde différent dans sa tête, réagissant à ces mots. Et pour preuve, c'est qu'une fois que vous avez terminé le livre, vous ne vous rappelez pas du mot individuel. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire « Alors c'était quoi le 14e mot, la ligne 7 à la page 42 ?» Non. On parle des impressions de l'idée de manière générale. Mais ce mot, le 14e de la ligne 7 à la page 42, et tous ceux qui l'entourent, ils ont fait leur boulot. Ils ont transmis le message. Donc, j'ai envie de dire, l'écrivain, ayez le courage, ayez les tripes d'abandonner vos cartes, ayez le courage d'abandonner la cigarette.
Of maps is that they're wrong. Even Google Maps is often wrong. And the older a map is, the more it's wrong, and the more it is the story of what a culture doesn't know. And one of the things that always fascinates us about maps is the part where there are dragons, the part where we don't know. And one of my issues with fantasy maps, though I love maps for themselves, is that fantasy maps are always correct. They are always completely attuned to the needs of the protagonist and the needs of the reader, and they are never, never the kind of gentle lie that a real map is. But if you look at a map drawn, there's such wonderful, famous maps of the Kingdom of Prester John and all of these places that we know don't exist. They are done with the absolute authority of any map in a fantasy novel, but they're a total lie, and I would love fantasy maps if they actually engage with that, but they never do. They're always absolutely, they're more correct than any GPS satellite could ever be.
Je rebondis parce que ce qui est rigolo, c'est que donc les cartes, dans la vraie vie, elles racontent déjà elles-mêmes des histoires. Mais elles racontent des histoires qui sont sans doute souvent erronées. Je veux dire, il n'y a jamais une carte qui soit tout à fait exacte. Il y a toujours une marge d'erreur, même sur Google Maps. Et plus on renseigne, plus on géolocalise tout, moins les choses sont vraies au final. Tout ce qu'on voit, c'est justement toutes les zones d'ombre culturelles. Et moi, ce qui me fascine justement, ce sont dans les cartes, dans le monde réel, ce sont justement les zones où il y a les dragons, par exemple. Ces zones d'ombre, justement, où on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Et ce qui me chagrine un peu dans les cartes, dans les récits de fantasy, c'est qu'en fait, elles sont tout à fait exactes, puisqu'elles sont créées par la main et par l'esprit de l'auteur. du royaume du prêtre John, qui est superbe, vraiment d'un point de vue esthétique, magnifique, mais voilà, pour moi, elle est trop exacte pour être vraie. Donc, elle est un mensonge. Moi, ce que je voudrais, ce serait que les cartes dans les romans de fantasy intègrent justement cette part d'erreur. Parce que là, en l'état actuel des choses, elles sont plus exactes que n'importe quel GPS ou n'importe quel satellite.
Bien, votre vallée, de toute façon, elle apparaîtrait sur aucune carte, elle est paumée nulle part. C'est l'avantage. Il y arrive quasiment par hasard, mais si je vous ai bien écouté tout à l'heure, finalement, le point de départ, c'est le personnage lui-même. Puisqu'il arrive déjà à ce garçon, et quelle a été votre idée de départ pour écrire cette première image?
Si je peux me permettre, je t'en prie de répondre à Christophe qui est un peu défié sur le problème des cartes. En toute amitié, Christophe, je suis totalement accro aux cartes. Je ne filme pas, mais j'ai sur des voilà, contre les cartes et je ne peux pas m'en passer. Alors, mes amis, quand ils m'offrent des cadeaux, pour moi, l'anniversaire, ils m'offrent des livres de cartes, des accrasses, des vieilles cartes, ou, comme dit Catherine, des vieilles cartes où tout est déformé, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore bien l'Australie ou l'Amérique du Sud, on voit des pays fantastiques avec des petites illustrations ou des petits bonhommes qui représentent les indigènes. Et c'est ces cartes où on reconnaît vraiment les continents, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux derrière toutes ces terres incognitas. Donc, je vais faire écrire une autobiographie, parce qu'à chaque année, tu nous racontes des trucs sur ta vie. Enfin, bref. Par ailleurs, je suis totalement accro aux cartes de Tolkien, qui les dessinait lui-même, et qui ne dessinait pas simplement des cartes, mais des objets, parce que les objets d'art, parce que les cartes de Tolkien, c'est pas juste des pointillés avec des ronds et des carrés pour les capitales. C'est des montagnes dessinées, des petites forteresses pour les villes, etc. Cela étant dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, je n'ai pas de carte dans mon roman de fantasy, et je pense qu'il est assez, gentiment, parce que vraiment, c'est un peu dangereux de faire une carte dans un roman de fantasy, parce que d'une part, on se limite. Si on réutilise cet univers une seconde fois, on a une carte, et donc on ne peut pas vraiment la prolonger, ou alors il faut en faire une autre à côté. Et on risque aussi d'enfermer le lecteur dans un imaginaire, tout à fait d'accord avec toi là-dessus, d'enfermer le lecteur dans un imaginaire déjà prédéfini. Par contre, moi, en tant que créateur, en tant qu'auteur de fantasy, je dessine toujours une carte pour moi, et je la scrute avec mon œil d'auteur, c'est-à-dire à chaque fois que je vois un petit point où j'ai marqué une ville, je m'imagine la ville, comme si je pouvais faire Google Maps, pour la grossir, toutes ces petites maisons, ces gens en train de dans les boutiques, de se battre dans les rues. Et donc la carte pour moi, c'est simplement une manière d'imaginer tous les territoires à la fois de ce monde de fantasy. Donc maintenant, je ne sais plus quelle question que tu m'avais posée.
Et je te demandais, puisque tu nous as expliqué tout à l'heure que tu partais plutôt du personnage vers l'univers, comment est venue l'idée de cette dernière image? C'est le personnage de Jade qui a démarré.
Oui, alors le personnage de Jade, on a parlé beaucoup de géographie dans la création de monde, mais pour moi, le monde, c'est non seulement la géographie, mais aussi un certain nombre d'autres paramètres. On a parlé des créatures comme Catherine, du temps pour Christopher. Pour ce qui est de la fantasy, moi, ce qui m'intéresse, c'est le système de magie notamment. Et donc, dans cet univers, le système de magie consiste, pour certaines personnes, à se lier très fortement d'amitié ou d'amour avec un petit cercle de personnes. Et une fois que ce cercle est créé et que les liens sont très forts entre les gens, des choses extraordinaires peuvent se passer. La personne qui arrive à se lier peut concentrer l'énergie de ces gens ou les compétences de ces gens pour devenir beaucoup plus puissant et faire des choses extraordinaires. Et donc, Jal part au départ de ce système de magie et aussi de ce personnage un peu écorché, un écorché vif, qui a perdu la mémoire autrefois, qui se souvient de la dernière année de sa vie, mais pas de son enfance, et qui était trimballé, parce qu'il était enrôlé de force dans une armée, trimballé de vivre en ville à piller tout un continent. Il décide un jour d'arrêter cette espèce de vie absurde qu'on lui a imposée et de se dire je vais trouver mon paradis un peu plus loin. Il arrive, il a pillé un monastère, il a un tas d'argent avec lui. Il se dit je vais quitter cette armée et vivre une vie tranquille loin de cette guerre. Et évidemment, ça ne se passe pas comme il a prévu. Et il se retrouve poursuivi par ses anciens camarades et piégé dans cette vallée, à moitié mort, agonisant. Les habitants lui disent on va bien tout soigner, mais en échange, tu vas défendre notre vallée contre l'armée que tu viens de déserter. que l'univers est rapidement limité à cette vallée. Le fait que, enfin, géographiquement en tout cas, le fait qu'on est, on resserre la carte ou les lieux de cette histoire permet pour moi en tout cas c'était le but, d'accroître les tensions et de ne pas se disperser dans des lieux très différents, tout en cachant sur la fin quelques jours. Et il me paraissait plus intéressant de parler de tout un univers à travers une simple vallée et des gens qui peuvent parler accessoirement de ce qu'ils ont vu ailleurs, des villes magnifiques qu'ils ont croisées ou des atrocités qu'ils ont vues dans d'autres lieux, mais tout en restant dans cette vallée qui sert un peu de, même si c'est un petit point perdu et sans intérêt pour la plupart des gens dans ce monde, qui va être nous, la petite clé ou le miroir grossissant de tout un univers.
Ménès Marchine, on va donc rentrer là aussi dans cette dimension dont vous nous avez parlé. Elles sont assez particulières parce qu'elles sont pas de carte non plus, il y a autre chose. Et elles sont aussi marquées par des rencontres que là pour le coup les personnages font, mais le lecteur aussi les fait parce que il y a tout un système de référence dans ce voyage qui nous est proposé dans les murs. Oui, donc je vais épuiser le thème des cartes. Puisque ça n'en voudra pas beaucoup, j'espère. Et dans tous les autres moments, effectivement, j'ai utilisé des cartes. Bon. Mais pour une raison simple, c'est qu'au départ, mon jeune héros était né sur un petit îlot. Puis son premier voyage l'a mené sur un territoire qui était un peu plus grand. Puis quand il est voyagé, il découvrait que le monde est encore plus vaste. Donc j'avais besoin, j'avais besoin de montrer, de partager les territoires dans ces cartes-là. Dans les murs, ça m'aurait été beaucoup plus difficile à venir passer à mon éditrice, vous l'avez demandé, tu n'as pas de carte. C'est un peu difficile puisque quand on voyage dans les dimensions, déjà on n'est plus dans un. On ne peut plus être en 2D, on est obligatoirement déjà en 3D. Et si ça pouvait se faire, peut-être, mais bon là, il faut faire appel peut-être sur les tablettes, on y arrivera un jour à faire quelque chose en profondeur. Mais voilà, donc pour cette raison-là, déjà, c'était un peu impossible. Sinon, bon, les personnages, je pense, c'est un peu pareil. Je préfère partir de la définition d'abord d'un personnage avant de définir même quelle va être sa mission finale, les aventures qu'on va lui faire vivre. Et s'il y a un point commun un peu à tous mes personnages, c'est que, effectivement, mon souci premier, c'est qu'ils sont tous destinés à devenir des êtres de lumière. Êtres de lumière, à aucun moment je devrais pouvoir en faire des méchants. Ils évoluent dans un univers bon, de magie, bon, comme je l'ai dit une fois, comme ça, au hasard d'une phrase, la magie, c'est là où l'âme agit. Donc, partant déjà de ce principe-là, c'est évident que tout leur souci, ça va être de s'entourer de gens, évidemment, qui leur ressemblent, qui, au fur et à mesure, vont créer des chaînes d'amitié, de solidarité, d'amour. C'est je crois même que dans les mots d'amour, ça viendrait en tout cas d'une racine ébola, amaor, qui signifie la lumière. On s'étendre vers la lumière. Voilà, moi c'est l'essentiel de ce dont j'essaie d'abord de doter mon personnage ou mes personnages principaux. Parce que je crois que c'est ce qui va leur permettre justement d'affronter après toutes sortes de situations. Évidemment, quand on part du premier principe que rien ne sera plus fort que l'amour.
Sur les rencontres qui se font au fur et à mesure.
Je m'attends en particulier
Il y a une partie mythologique, il y a une partie très littéraire. L'univers qui se crée en se construisant autour de ces éléments-là.
Oui, bien sûr. Mais là, alors, on est dans le fond, c'est-à-dire dans nos sources même, sur quoi on puisse pouvoir bâtir un univers. C'est évident que, bon, moi, j'aime récupérer un peu tous les éléments qui nous ont nourris, alors qu'elles sont plus souvent les mêmes, on a puisé largement dans les mythologies.
dimension. Dans la rivière, on découvre qu'il mesure entre 4 et 5 mètres de hauteur, donc ça en fait des géants. J'en ai fait des géants parce que la tradition disait déjà que les Atlantes étaient des géants. Et quand il m'a fallu un monstre, que j'avais besoin de développer quelque chose autour de la vision du regard, c'est-à-dire comment on regarde ce monde. Pour moi, par exemple, s'impose à ce moment-là les cyclopes. Donc les cyclopes, ça ne va pas être quelque chose que j'invente parce que voilà, ça fait partie de nos mythologies. Et que dans cette même mythologie, les cyclopes étaient déjà des symboles forme de sagesse.
Mais vous auriez pu créer un personnage de cyclope de toutes pièces. Or là, vous utilisez les cyclopes de la mythologie.
Oui, pas tous. Pas tous, c'est pas gratifiant pour le seul que j'invente. C'est-à-dire que j'ai utilisé effectivement des cyclopes qui sont connus comme Argent, Montes, ou Polyphème, le fameux cyclope qui se fait crever l'œil à un moment. J'en ai inventé un qui lui n'a pas de chance, c'est que au lieu d'être géant, ben, il mesure à peine 1,10 m. Il a tous les défauts. Il ne voit pas, il est aveugle. Donc, son œil ne lui sert absolument à rien. Mais c'était encore dans la même intention de dire que la meilleure magie, c'est celle qu'on peut trouver en soi. Donc, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin du regard comme les autres. Il n'avait pas besoin de tout ça. C'est pas lui qui va ressentir. Et il ressent effectivement parce que. Du coup, c'est comme si un autre sens à lui s'était développé. Et il ressent parfaitement le monde qui entoure. C'était le personnage. Mais c'est vrai que j'aimais bien réutiliser souvent les personnages mythologiques, quelle que soit la mythologie. Dans ce sens, je suis un peu comme Catherine, c'est-à-dire j'aime bien puiser dans les mythologies africaines, pas seulement gréco-latines, mais un peu celtique, un peu moins. Parfois, ça dépend des. Quand j'en ai besoin.
Et puis quelques références littéraires aussi qui apparaissent au fur et à mesure.
Ben oui, parce que ça me semble important. Ça me semble important de citer sans que ça pèse. Évidemment, j'essaie de veiller à ce que ça reste toujours dans l'aventure, que ça pèse pas au-delà. Mais quand on s'adresse à des jeunes, moi je suis toujours parti du principe qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi des jeunes, il ne faut surtout pas les prendre pour des imbéciles. Et si on peut les guider, l'autre jour on parlait de Lovecraft, qui nous a nourri, qui nous permet d'être là aujourd'hui à faire nos propres ouvrages. Alors j'essaie de placer quelques petites indications sans citer forcément les œuvres de ces gens, mais voilà, les guider. Je pense que dans la littérature, il y a un travail effectivement de guidance pour le partage.
Tout à l'heure, parce qu'il a parlé, il a fait la comparaison entre les cartes et les photographies des personnages. Or, je ne sais pas si c'est pour l'édition américaine, mais l'édition française de vos romans est illustrée. On voit cette dame-là. C'était un choix aussi, justement. Et comment est-ce que vous avez travaillé avec l'illustrateur pour que son travail à lui colle avec votre univers à vous?
Disagree with Chris. I am delighted always to see illustrations of her work. Just to see something that's in my head made so manifest is always a delight for me. When the first time
protagoniste de la série Féerie qui s'appelle Anna Juan. Il faut rappeler que dans beaucoup, la plupart des ouvrages qui sont destinés à ce public, voilà les 10-14 ans, je dirais, il y a beaucoup d'illustrations, hein, c'est assez traditionnel, beaucoup plus que dans les livres pour adultes. Et donc, contrairement à ce que disait Chris tout à l'heure à propos des photos des personnages, bien moi j'adore les illustrations, j'adore voir des illustrations des personnages. Je me réjouis quand je vois quelque chose, un personnage qui sort de mon propre esprit, de le voir sur papier, c'est une grande joie pour moi. Et la première fois que j'ai découvert les illustrations d'Anna Juan, j'ai été un petit peu surprise parce que ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Mais j'ai vraiment été ravie parce que, justement, même si c'était, si ça m'a prise par surprise, bien, je trouvais que ça avait vraiment, ces illustrations avaient vraiment une patte unique et qu'elles étaient magnifiques. Je trouve qu'elle a une petite touche qui rappelle Frida Kahlo et que ses dessins vont à merveille avec les personnages et avec le récit. Et c'est à la fois, ce qu'elle dessine, c'est à la fois un petit peu rétro et en même temps très 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 actuel. Alors, vous me demandiez si on avait travaillé ensemble, mais pas vraiment, en fait, on ne s'est jamais rencontré physiquement. Moi, je lui ai envoyé quelques esquisses pour lui donner les grandes lignes. Et puis, bon, si je recevais quelques petits, si elle m'écrivait pour me dire, pour se plaindre un petit peu de choses qui ne lui allaient pas, bon, ben, je réagissais. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal pris la tête sur les cheveux du personnage de Samedi. Alors, moi, je voulais absolument qu'il y ait une sorte de chignon un petit peu relevé. Elle s'entêtait à ne pas du tout lui faire cette coiffure-là. Mais sinon, à part ça, vraiment, je lui envoyais mes esquisses et tout se passait très bien.
And I think part of the reason that they are such great illustrations is that they're very stylized, so I don't think that anybody could, in picturing the rest of the book and the rest of the world, think that that's what it looks like. They are so unique and so slightly unrealistic in their proportions that they kind of look like paintings from a museum in Fairyland rather than photographs of Fairyland. From the third book on, though, I got to say what was on the covers. They would ask me what I wanted her to draw for the cover, and for the third one, I said, look, we have the moon with the city skyline along the edge of it, and the Yeti, and this, that, and the other thing. And so I got to sort of design the covers, and then Anna would make them, and that was really rewarding for me, because I can't draw at all. But I have a painter's mind and a writer's hands. I can't do it. But I really wish I could. So it was wonderful for me to have that much input. But Anna and I have never met, and in fact never spoken. We had all of this collaboration. She lives in Spain, and we require an interpreter. So it was all through my publisher and various others.
La raison principale, je dirais, pour laquelle ces illustrations fonctionnent dans le livre, c'est qu'elles sont très stylisées. Je pense que personne qui regarde ces illustrations ne va se dire que c'est quelque chose qui est censé représenter très précisément les personnages. Elles ont cette petite touche unique, un petit peu surréaliste, surtout au niveau des proportions, quand la tête va paraître que le corps, par exemple, qui leur donne un petit peu la qualité d'une peinture, par exemple, qui pourrait être tout droit sortie d'un musée qui se trouverait dans le monde de Féerie. Voilà, on n'imagine pas du tout que c'est une photo réaliste, que ce sont des photos réalistes, pardon. Alors, ensuite, à partir du quatrième tome inclus, et bien là, l'éditeur m'a sollicité justement pour concevoir la couverture. Donc on m'a un petit peu demandé ce que je voudrais y voir. J'ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait peut-être la lune, qu'on voit des petits éléments de la ville, qu'il y ait un petit peu la ligne d'horizon. J'aimerais bien que le Yeti aussi y figure. Et donc ça, c'était vraiment génial pour moi. C'était très, très, très gratifiant. Parce que moi, je suis vraiment une bille en dessin. fait, j'ai l'esprit d'un peintre, d'une peintre, mais par contre, j'ai les mains d'une écrivaine. Donc, c'est pas très pratique. Et alors, Anna, Juan et moi, donc, on ne s'est jamais rencontrés. Hein. On ne s'est jamais même parlé parce qu'elle habite en Espagne. Donc, on a dû correspondre via justement une interprète et toujours par le biais de mon éditeur.
Christopher Priest, la table ronde, c'est créateur de monde et monde de créateurs. Votre personnage principal dans la déclinaison est musicien. Je vais reprendre un peu la formule de Catherine. Est-ce que vous êtes un musicien avec des mains d'écrivain? Every map ever drawn is political.
chaîne, il y a les pro-cartes et les anti-cartes. Je pense que tu peux.